Au cœur de l'histoire.
C'est la semaine prochaine que sort le nouveau film de Luc Besson, The Lady, qui évoque le combat inlassable d'une femme d'exception pour la démocratie en Birmanie. Et Franck Ferrand a choisi d'approfondir aujourd'hui cette question sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. The Lady, en l'occurrence, c'est Aung San Suu Kyi. Vous savez, cette femme au courage exceptionnel, largement inspirée par la non-violence du Mahatma Gandhi, récompensée par le prix Nobel de la paix en 1991, et qui, depuis 23 ans et même un peu plus maintenant, lutte contre la junte militaire birmane et contre les dictateurs successifs au pouvoir à Rangoon. Or, Aung San Suu Kyi est elle-même la fille d'un héros national birman, le général Aung San.
Et je trouve d'ailleurs très entourée aujourd'hui.
Et oui, c'est que l'histoire birmane, voyez-vous, ne m'est pas très familière, je dois le reconnaître. J'ai donc appelé au secours Régis Le Sommier, qui est directeur adjoint de la rédaction de Paris Match, ainsi que Pierre Martial, président de l'association France Aung San Suu Kyi, ainsi que notre amie Diane Chenouda du service culture d'Europe 1. Anne a rencontré la comédienne Michelle Yeoh, vous savez, qui incarne de Lady à l'écran. Mais avant d'entrer dans ce qui fait la matière de ce beau film de Luc Besson, j'aimerais vous ramener quelques décennies en arrière aux origines de la Birmanie indépendante.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Myanmar est le pays de l'or. Il y a de l'or au dôme, aux flèches, aux bulbes, des pagodes sacrées qui parmi de hauts palmiers se détachent du brouillard envahissant ces vallons, de l'or sur les bouddhas qui les habitent, de l'or en reflet sur les ornements délicats laissés par une civilisation très vieille, celle du peuple de Pagan. Myanmar, Myanma pour les habitants, c'est notre Birmanie, un pays un peu plus grand que la France, peuplé de 48 millions d'habitants, entre l'Inde et le Vietnam, capitale Rangoon, bien sûr, Yangon pour les Birmans, un pays indépendant depuis janvier 1948. Les Britanniques, qui jusque-là dirigeaient la colonie, avaient choisi pour la proclamation de l'indépendance le jour du 6 janvier 48. Seulement, ça c'était compté sans les moines. Vous savez que la Birmanie est un pays très bouddhiste, féru d'astrologie. Or, en l'occurrence, la date fixée a été déclarée de mauvais augure et finalement, l'indépendance a été repoussée de 2 jours jusqu'au 6 janvier 1948. Cette indépendance, les Britanniques l'ont négociée avec celui qui, à l'époque, incarne les espoirs du peuple birman, le général Aung San, qui, à l'époque, a 32 ans. Qui est-il, ce général? C'est un jeune nationaliste de bonne famille qui a étudié l'histoire et les sciences politiques à l'université anglaise de Rangoon et qui, dès 22 ans, a milité dans les rangs des jeunes nationalistes birmans. Il faut savoir qu'il a fondé en 1939 le Parti communiste birman, dont il est secrétaire général, ce qui ne plaît évidemment pas tellement aux autorités coloniales, on peut l'imaginer. Il est contraint de s'exiler, il choisit la Chine, ça paraît naturel, même si on est quand même 10 ans avant la création de la République populaire. On est bientôt dans la guerre mondiale. Aung San se trouve capté par les Japonais et là, forcément, sa position politique importante en Birmanie intéresse au plus haut point le gouvernement de l'Empire du Soleil Levant. Les Japonais, disons-le, sont ravis de pouvoir déstabiliser les Britanniques. Ils vont dès lors aider Aung San à créer une armée pour l'indépendance birmane. C'est la fondation de l'unité des 30 camarades. On est là fin 1941. Et puis, quand l'Empire japonais se rend maître de la Birmanie et prend Rangoon au printemps 42, eh bien Aung San, qui est promu général dans la foulée, se voit confier de hautes responsabilités. Le Japon proclame une première fois l'indépendance de la Birmanie. On est là un an plus tard environ, en août 1943. C'était évidemment, il faut le souligner, une indépendance tout à fait théorique. Vous savez que le Japon contrôle, dans le cadre de sa sphère de coprospérité, contrôle tout ce sud-est asiatique. Dans ce premier gouvernement dit indépendant, Aung San tient le portefeuille crucial de la guerre. Or, dans le plus grand secret, il se rapproche des alliés au point d'intégrer leur rang sur le tard, mais à temps. En mars 1945. À ce titre, il va contribuer largement à l'éviction des Japonais d'une Birmanie où le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont devenus très impopulaires. Mais là où le jeune général Aung San va faire preuve d'une exceptionnelle habileté, c'est dans son rapprochement parallèle avec les mouvements communistes qui, sitôt l'Angleterre de retour aux commandes, vont piloter la lutte pour une indépendance réelle cette fois. La Ligue antifasciste pour la liberté du peuple, initialement dirigée contre les Japonais, va se retourner presque aussi vite contre les Britanniques. Or, dès janvier 1946, Aung San en est le président. C'est donc bien à ce titre de président que Aung San négocie ferme avec la puissance coloniale affaiblie au lendemain de la guerre. Londres est prêt à lâcher beaucoup de terrain, ça c'est certain. Un terrain que la Ligue antifasciste du jeune général est prête de son côté à occuper, ça tombe bien. L'indépendance est donc programmée pour le début de 1948, le 6 janvier, ça je vous l'ai dit. La Ligue d'Aung San a remporté dès le mois de juillet 47 les premières élections de l'ère indépendante. On a l'impression qu'un boulevard s'ouvre devant ce jeune héros national. Aung San est tout désigné pour prendre la tête du nouvel État. Et là, malheur, le fameux samedi 19 juillet, il est assassiné avec plusieurs de ses collègues du Conseil exécutif, c'est-à-dire le gouvernement de transition. Le commanditaire de cet assassinat se nomme U Sao. C'était le dernier premier ministre birman de l'époque coloniale, entre 40 et 42. Il s'imaginait que les Britanniques, qui allaient être désorientés par la mort d'Aung San, allaient recourir à ses bons offices. En fait, il n'en sera rien. Le gouverneur sur place confie la succession du général Aung San à l'un de ses plus proches collaborateurs, ou nous, un homme dépourvu malheureusement de tout charisme qui va assez vite se laisser dépasser par les événements. En un clin d'œil, va témoigner un survivant de la tuerie dans le Times de Londres. En un clin d'œil, la salle du conseil s'est transformée en abattoir. C'était un bain de sang avec des gens morts ou agonisants étendus partout. Je me suis évanoui et n'ai repris conscience qu'à l'hôpital. Aujourd'hui, ce 19 juillet en Birmanie est considéré comme le jour des martyrs. Cet assassinat sert de scène d'introduction au film que Luc Besson consacre non pas au général Aung San, mais à sa fille, désormais aussi célèbre, que dis-je, plus célèbre même que son héros national de père, Aung San Suu Kyi, cette femme au caractère hors du commun qui, 40 ans plus tard, en 1988, prendra la tête du mouvement populaire birman en faveur de la démocratie. Et avec quelle force contenue, avec quelle autorité morale, on peut dire que, vous connaissez l'expression, bon sang ne saurait mentir.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et dans le cadre de la journée spéciale The Lady, un film européen réalisé par Luc Besson et consacré à Aung San Suu Kyi, le récit de Franck revient aujourd'hui aux origines de la Birmanie indépendante.
Alors après cet assassinat, j'allais dire terrible, un assassinat l'est forcément, du successeur du général Aung San, son successeur va essayer d'instaurer une démocratie parlementaire, disons-le, sans grand succès. Très vite, le pays sombre dans une sorte d'anarchie ponctuée d'insurrection fomentée par trois factions rivales, et tout ça pendant près de 15 ans, jusqu'au coup d'état militaire perpétré en mars 1962 par le général Ne Win, un coup d'état mené de main de maître au demeurant et sans coup férir. Ce n'était qu'un début, hein. Les coups allaient venir un peu plus tard. Ne Win, une fois au pouvoir, met en place ce qu'il appelle la voie birmane du socialisme. En fait, c'est une sorte de régime hybride qui emprunte un petit peu au marxisme, un peu au bouddhisme, beaucoup au nationalisme. Un régime qui refuse de s'aligner sur l'URSS, mais dont le moins qu'on puisse dire par ailleurs est qu'il est d'une dureté sans exemple. Après quelques années marquées par des réformes en faveur du droit des paysans, c'est ça. Ça commence toujours comme ça, les dictatures en faveur de la lutte contre l'analphabétisme. C'est un népotisme brutal, sanglant, qui s'installe et qui va durer donc au moins jusqu'en 1988. 1988, c'est la date la plus importante. Des mouvements étudiants, ce n'est du reste pas la première fois, se révoltent à ce moment-là contre la dictature ubuesque de Ne Win. C'est le mouvement, on appelle ça le mouvement des 4-8 parce qu'il est né un 8 août 1988, mouvement auquel va bien bientôt se trouver mêlée une certaine Aung San Suu Kyi. Elle vit, elle, depuis longtemps à Oxford en Angleterre, mais elle n'est autre que la fille du général Aung San. C'est elle, la lady de Luc Besson, c'est elle dont nous allons parler maintenant.
Banners of Freedom sur Europe 1, composé par Eric Serra, extrait de la bande originale du film The Lady de Luc Besson. On vous retrouve, Franck, pour la partie magazine avec vos invités aujourd'hui, oui. Régis Le Sommier et Pierre Martial.
Et Diane Chenouda, notre consoeur et amie du service culture d'Europe 1, qui est allée en Birmanie et qui a interviewé la comédienne incarnant Aung San Suu Kyi à l'écran. Elle nous en parlera tout à l'heure. On dira évidemment un mot de ce film que j'ai vu moi la semaine dernière et qui est dans lequel je suis encore, si je puis dire. Ça m'a marqué, ce film. Merci Régis Le Sommier, vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Paris Match, que vous avez suivi tous les soubresauts d'un combat politique qui maintenant commence à dater, évidemment. Ça fait 22 ans, 23 ans que Aung San Suu Kyi fait la une de l'actualité, ou essaie de la faire, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle soit toujours très bien traitée par les médias occidentaux, disons-le.
Alors, disons qu'elle a quand même eu à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'il y a eu une histoire incroyable. Enfin, vous parlez de 22 ans, puisqu'on peut dire c'est oui. 1988, et puis ensuite sa mise en résidence surveillée un an plus tard. Elle a été bien traitée, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, comme tout phénomène médiatique, bon, on s'empare de la personne au départ et puis ensuite on la suit, et puis il y a des petites périodes où il y a des périodes de reflux et puis il y a des périodes qui reviennent. Ce qui est intéressant dans le phénomène de Aung San Suu Kyi, c'est la constante. La constance dans tout ce qu'elle va faire, dans toute sa démarche.
On va y venir justement, cette force de caractère extraordinaire, voilà. À cette constance qui marque une action presque en creux. Merci à Pierre Martial d'être avec nous. Vous êtes écrivain, journaliste et président de l'association France Aung San Suu Kyi. Vous êtes aussi le patron du site internet www.aungsansuu.fr. Je pense que tout le monde ira voir sur internet comment ça s'écrit exactement. Et vous êtes en lien permanent avec elle, donc vous allez pouvoir nous révéler des choses étonnantes. Merci à vous trois d'être avec moi pour essayer de revivre ce quart de siècle de combat politique, un combat très important en Birmanie.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et à l'occasion de la sortie du film The Lady, Franck et ses invités retracent aujourd'hui sur Europe 1 les malheurs de la Birmanie indépendante.
Eh oui. Donc, avant d'arriver aux événements de 1988 et au début du combat politique tout à fait extraordinaire d'Aung San Suu Kyi, j'aimerais qu'on revienne sur sa biographie. Nous avons quitté son père dans un bain de sang, il s'est donc fait assassiner en 1947, le 19 juillet 1947. Il était à deux doigts d'exercer le pouvoir en Birmanie. Et voilà donc que l'un de ses concurrents le fait assassiner. Que devient, à partir de ce moment-là, sa petite fille Suu Kyi, donc, et que devient sa famille, plus généralement, Pierre Martial?
Tout à fait. Alors, Aung San Suu Kyi a deux ans. Mais deux oui, ans à ce moment-là. On le voit d'ailleurs très bien dans le film de Besson. Et... Donc on imagine à quel point elle est marquée, quoi. Elle devine, elle voit, et à ce moment-là, sa mère commence à intervenir dans la situation, civile birmane, en essayant de faire un travail à la fois humanitaire,
C'est important, ça, parce que non seulement son père donc fait figure de héros national, c'est l'homme de l'indépendance, etc., comme il y a eu dans tellement de pays anciennement colonisés. Mais sa mère va jouer, après la mort de son jeune mari, sa mère va jouer un véritable rôle politique. On l'aperçoit, si je puis dire, cette mère dans le film de Luc Besson, puisque c'est au chevet de cette mère mourante que se rend Aung San Suu Kyi en 1988. Mais évidemment, le film, c'est normal, fait l'impasse sur toute la vie de cette jeune femme, toute sa formation, et donc sur le combat politique de sa propre mère.
Tout à fait, tout à fait. Donc sa mère a très vite un combat social, sociétal très important. Elle est nommée ambassadrice également à New Delhi, où sa fille va commencer ses études, on va dire, hein. Et donc elle va continuer à travailler dans cette idée, à mener, je dirais, plus civilement, en réalité, le combat de son mari défunt.
Donc elles sont restées un peu en Birmanie avant d'émigrer en Inde. Donc est-ce que cette scolarité à Delhi, est-ce que cette période indienne a marqué Aung San Suu Kyi? Est-ce qu'on peut dire ça, Régis Le Sommier?
Je ne sais pas si elle a marqué. Je dirais plutôt que sa période anglaise, évidemment, qui va va la marquer profondément. Sur cette période anglaise, elle est élevée dans une institut catholique. Elle est quand même donc elle reçoit
c'est l'école catholique anglaise.
Absolument. Et donc elle reçoit, je dirais, elle fait ses humanités. Donc elle est immergée dans une imprégnée de culture occidentale aussi, d'une certaine façon. Donc, elle a une culture universelle. C'est peut-être là aussi qu'elle va commencer à réfléchir sur son pays, commencer, même si elle est encore jeune à l'époque. Il y a le poids, évidemment, vous l'avez souligné, de la mort du père. Et évidemment, cette famille qui est complètement politique. Donc, tout de suite, il y a une démarche politique chez elle.
Pour bien connaître une de ses amies, une de ses camarades de lycée, hein, de l'époque, qu'il l'a côtoyée quand elle était toute jeune, il semblerait qu'elle ait d'emblée été habitée par quelque chose. Il y avait une lumière chez cette toute jeune femme et comme une sorte de sens de sa destinée. C'est assez étonnant. Elle n'était pas une jeune fille comme les autres, déjà, dit-on. Elle avait comme une sorte de prescience, peut-être, de ce vers quoi elle serait un jour appelée.
On peut appeler ça le destin, on peut appeler ça en tout cas quelque chose de très très fort et qui l'habite, je crois qu'il est extrêmement bien retranscrit dans le film, je trouve, mais qui est aussi quelque chose qui va peser même sur ses relations, puisque même sur Michael Harris, qui va être son compagnon, mais c'est quelque chose d'extrêmement excessif, elle est poussée par quelque chose, jusqu'à venir se réinstaller en Birmanie, on le verra un peu plus tard,
alors,
pour poursuivre son combat.
Elle fait un crochet par les États-Unis, hein, il faut dire, donc elle a vraiment tout ce bain de culture à la fois occidentale, mais j'ai plutôt envie de dire cosmopolite, je pense, hein, toujours dans les bons milieux, très cosmopolite, très cultivé, d'une certaine aristocratie de la pensée anglo-saxonne, on va dire. Et puis, c'est à Oxford qu'elle rencontre son mari. Non, d'ailleurs, c'est pas là qu'elle le rencontre.
En tout cas, elle le côtoie à Oxford, beaucoup de vie.
Lui étudie les civilisations tibétaines.
Lui est un spécialiste des civilisations tibétaines. Et c'est vrai que vous avez bien raison d'appuyer là-dessus parce que ça va être une des forces d'Aung San Suu Kyi, c'est-à-dire cette connaissance occidentale. Ça va devenir un mélange, j'allais dire, d'étonnant, non violent, mais très fort, à la fois d'une civilisation asiatique, mais aussi d'une civilisation occidentale.
C'est très intéressant, ce mari, Michael Harris, qui est un frère jumeau du reste, le film traite assez bien la question, et de voir qu'il a été finalement un soutien pour sa femme. C'est rarissime ça, puisque généralement les conjoints dans ce genre de combat, j'allais dire perdu d'avance, en tout cas de combat extrêmement dur, les conjoints freinent des quatre fers, essaient systématiquement de détourner leur mari ou leur femme de son combat. Lui, non seulement il ne l'a pas détourné, mais il l'a soutenu, accompagné constamment. Il s'est vraiment sacrifié. C'est en tout cas le sens du film de Luc Besson, ça, pour le coup.
Tout à fait. C'est à la fois quelqu'un qui est également très sensibilisé. Hein. Il travaille sur le Tibet, donc il est imprégné de cette culture asiatique. Et puis c'est quelqu'un qui a à la fois un profond respect et un profond amour pour Aung San Suu Kyi et qui sent, qui est peut-être un des premiers à sentir le destin qu'elle a et que rien ne pourra s'opposer à ce destin, même si Aung San Suu Kyi aime énormément Michael Harris et qu'à aucun moment elle ne voudra l'abandonner, je dirais, derrière sa lutte politique.
Ils ont eu deux enfants ensemble et ces deux enfants, ces deux fils se trouvaient évidemment avec leur père au moment de la réception du prix Nobel de la paix, puisqu'elle était en résidence surveillée en Birmanie. Elle n'a pas pu se faire le voyage pour recevoir le prix des mains du roi de Norvège. Nous allons donc revenir sur toute cette histoire d'Aung San Suu Kyi. Nous allons surtout revenir sur la situation politique birmane et les événements de 1988 qui sont le point de départ de son véritable combat politique.
Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
«
in Burma, nouvel extrait de la bande originale du film européen The Lady Frank.
C'est un film qui, comme tous ces grands films, ces grandes fresques, présente le mérite majeur de nous rendre attachants personnellement, de nous impliquer, j'ai envie de dire, dans un combat politique qui par ailleurs se mène, certes est universel, mais se mène quand même un peu à l'autre bout du monde. On ne peut pas dire que les Français soient très familiers de ce qui se passe en Birmanie. Alors justement, Régis Le Sommier, il faut peut-être expliquer un peu les choses. Au moment où Aung San Suu Kyi se lance dans le combat politique en 1988, elle est donc en voyage là-bas sur place, au chevet de sa mère mourante, elle découvre des étudiants qui sont persécutés par un régime d'une dureté folle. La junte militaire au pouvoir se défend et défend un pouvoir pour le pouvoir, on peut dire, sans aucune ouverture possible.
Oui, je crois que dès cette époque, et elle va vite se rendre compte, elle en est déjà un petit peu consciente avant d'arriver, mais sur place, effectivement, elle voit le degré de persécution et finalement cet absolutisme, cette rigueur, vous dites, extrême, et vous avez raison d'insister, elle va très rapidement en être victime, elle va en être elle-même perçue comme un élément gênant, qui est très intéressant dans ce voyage, dans ce premier voyage qu'elle fait en 88, au moment où elle va revenir, presque se réinstaller, en tout cas revivre en Birmanie, tout de suite elle va être perçue comme un trouble. D'abord quelqu'un qui vient de l'Occident, quelqu'un qui vient peut-être instiller des idées qui ne sont pas en accord avec celles de la junte au pouvoir. Et puis voilà, très vite, les choses vont s'accélérer.
Cette junte au pouvoir, elle se perpétue. Donc à l'époque, on est encore sous le régime de Ne Win, qui va bientôt être officiellement remplacé. En fait, il continuera à tirer les ficelles dans l'ombre pendant longtemps. Il n'est mort qu'en 2002, ce général Ne Win. On a l'impression, en tout cas, que ce régime s'est coupé de tout, y compris du reste de ses voisins d'Asie du Sud-Est. Il vit dans une espèce d'autarcie extrêmement, extrêmement fermée, extrêmement dure, comme un certain nombre d'autres dictatures, évidemment. Oui. Est-ce que les journalistes avaient accès au moins à la Birmanie? Est-ce qu'on savait un peu ce qui s'y passait à l'époque?
Alors à l'époque, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que les voisins, c'est ce type de régime militaire extrême, qui soit d'obédience marxiste-léniniste ou qu'ils aient pu être des alliés de l'Occident comme Philippines et autres, sont assez courants à l'époque. Aujourd'hui, on vit une période où...
Oui, c'est ça, il y a eu une forte évolution.
Très difficile pour les dictateurs, on l'a vu. Aujourd'hui, à l'époque, c'était quand même relativement courant. Maintenant, vous avez raison de souligner cette dureté. Et cette fermeture, cette sorte d'isolation, alors qui peut être expliquée effectivement par l'opposition au colonialisme, par le prétexte du colonialisme, qui est souvent le cas invoqué dans les pays du tiers-monde pour justement que des dictateurs se maintiennent au pouvoir, en disant Baekhyun, oui, nous avons mené une lutte de libération nationale et aujourd'hui nous représentons la Birmanie dans ce qu'elle a de plus pur.
Alors, voilà. On a l'impression, quand on voit le film, qu'il y a une sorte de milice qui est paramilitaire. C'est tous ces jeunes gens qui portent des foulards orange, là. Ils sont aux ordres du pouvoir, aux ordres de la junte militaire, et ils sont chargés de faire régner l'ordre. C'est une sorte de police politique, en quelque sorte, Pierre Martial?
Tout à fait. Comme toute dictature a besoin de ses gros bras pour faire les basses œuvres, quoi. Donc, effectivement, il y a une foule d'ultra, essentiellement dans les jeunes, qui sont un peu remontés dans l'idée... Il faut sauver, comme vous l'avez bien dit, il faut sauver la Birmanie de l'Occident. C'est-à-dire que l'étranger, c'est l'ennemi principal, l'Occident, c'est l'ennemi principal, et donc il faut se resserrer, donc comme au niveau de l'autarcie, au niveau de...
Alors, Aung San Suu Kyi est un peu entraînée, j'allais dire pas malgré elle, mais enfin elle se trouve embarquée dans cette affaire. Et ce qui est frappant, c'est que d'emblée, elle impose un type de combat qui n'a, lui, rien de violent. Face à la violence brutale de la junte militaire au pouvoir en Birmanie, on est donc en 1988, mais ça va durer pendant toutes les années qui suivent, elle impose, elle, une attitude non violente, directement inspirée de Gandhi.
Totalement. Ça, c'est une idée force principale d'Aung San Suu Kyi, c'est la non-violence. Elle l'a fait respecter parmi ses rangs, parce qu'il y a parfois des ultras également qui ont tourné autour d'eux.
Bien sûr, oui.
Elle l'a fait respecter en permanence parce que pour elle, c'est une force principale. Et elle l'a bien compris parce que la violence entraîne la violence qui entraîne la violence. Et elle, quoi qu'il arrive, elle a toujours été dans la non-violence. Attention, non-violence ne veut pas dire passivité, ne veut pas dire soumission. Oui. Elle est à la fois d'une non-violence et d'un respect immense et en même temps d'une détermination fantastique.
Une détermination telle qu'on ne peut pas les différents militaires qui se sont affrontés à elle n'ont jamais réussi à obtenir quoi que ce soit. Elle a été parfaitement dure. Vous êtes, vous, en contact avec elle, évidemment, via Internet en l'occurrence, ça se
oui,
passe comment?
Oui, tout à fait. Alors, disons qu'on a été en contact pendant la junte, parce qu'il y a une façon de contourner, hein, par Internet, on arrive toujours à faire passer des informations et à être en contact. Bien sûr, maintenant, on l'est encore plus, parce que quand même, il y a eu une ouverture, on va dire, obtenue par Aung San Suu Kyi. Le gouvernement est en train de reculer peu à peu et pas à pas, je dirais.
Mais là, depuis ces derniers mois, il y a une véritable ouverture. Jusqu'à quand? Parce qu'on en a vu d'autres dans le passé. Mais en tout cas, là, pour l'instant, il y a une espèce d'embellie, peut-on dire, objectivement.
Tout à fait. Alors, mon analyse... Attention, c'est pas que la junte ou le gouvernement qui la représente lâche du lest et brusquement découvre les bienfaits de la démocratie. C'est parce qu'il y a cette force d'Aung San Suu Kyi qui, avec une intelligence stratégique énorme, a réussi à la fois à convaincre tout le monde, y compris, je dirais, les États-Unis, mais aussi la Chine, dont elle n'est pas complètement opposée, et avec un respect aussi du gouvernement birman.
Alors pour les grands médias, Régis Le Sommier, et notamment pour Paris Match, le prix Nobel de 1991 a été très utile parce qu'il a permis de porter sous les projecteurs de l'actualité cette figure qui en Occident était relativement méconnue tout de même.
Je crois que ça a été vraiment le démarrage de la figure. Elle s'est transformée tout à coup. Tout à coup, c'est d'une opposante dans un pays que, comme vous le soulignez, peu de gens connaissent, elle est devenue quelqu'un qui s'est rehaussé au terme, qui a véritablement inscrit sa marque dans l'histoire. Et je voudrais revenir sur une des composantes qui me paraît essentielle du combat d'Aung San Suu Kyi, parce que on est dans quelque chose de très différent. Bon, on peut parler, il y a eu des martyrs féminines dans l'histoire, Louise Michel, ou plus récemment, je pensais à Benazir Bhutto, qui ont effectivement imprégné toute leur vie, leur combat, mais elles sont mortes. La différence avec Aung San Suu Kyi, c'est qu'elle est restée en vie.
Et
je pense que sa grande force, c'est ça.
Mais est-ce qu'elle n'est pas restée en vie? C'est la question que je me suis posée pendant toute la durée du film, parce qu'elle était la fille de son père, tout de même. Est-ce que si elle avait été anonyme, on n'aurait pas essayé tout simplement de la supprimer?
Effectivement, mais elle a utilisé tous les moyens. Mais quand j'ai vu ce film, je me suis rappelé cette phrase de Lénine, qui est le devoir d'un révolutionnaire est de rester en vie. et c'est une phrase qui s'adapte incroyablement à Aung San Suu Kyi, parce que elle va gêner effectivement le pouvoir en place, mais le pouvoir ne peut pas l'éliminer, elle est trop connue. Donc tout à coup, il va se passer un jeu psychologique, un combat psychologique intense qui est très bien rendu dans le film entre les généraux au pouvoir. Les généraux, vous l'aviez souligné tout à l'heure, la Birmanie est un pays où l'astrologie est une composante
omniprésente,
oui. Omniprésente. Les généraux vont avoir recours aux cartomanciels, à des procédés irrationnels, ne sachant plus très bien à certains moments que faire et comment
combattre
se dépêtrer
cette femme qui n'est pas violente. Ça, c'est voilà. Dur. Nous revenons sur ce film évidemment lui-même avec Diane Chenouda dans un instant et sur la magnifique comédienne qui incarne à l'écran Aung San Suu Kyi.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Rapport d'Amnesty 2008, la Birmanie. Le 8 août 88, le peuple a été écrasé d'une manière sanglante par la junte militaire. En 1980, Aung San Suu Kyi et son parti démocratique ont gagné les élections par 83%. En 1991, Aung San Suu Kyi a gagné le prix Nobel de la paix. 70 000 enfants sont soldats. 10 enfants sur 100 n'arrivent même pas à vivre jusqu'à l'âge de 5 ans. Ils sont morts avant. Aung Aung San Suu Kyi will be gone, and she'll be on a t-shirt. The marketing's good. Monks are dying, soldier children crying. We're playing bubbles with four-year-old girls.
Jane Birkin sur Europe 1 qui rend hommage franc à Aung San Suu Kyi.
Et je suis en train de feuilleter le supplément que Paris Match a consacré à The Lady, ce film, où l'on voit constamment mise en regard les images du film, en tout cas du tournage, avec donc Michelle Yeoh qui joue le rôle d'Aung San Suu Kyi, et puis les vraies photos. Et on se rend compte peut-être encore mieux, grâce à ce très intéressant montage, de la fidélité de Luc Besson et de son équipe à ce qui a été le cadre, j'ai envie de dire, le climat de toute cette affaire. Vous avez cette impression aussi, Diane Chalouda?
Ah oui, c'est saisissant. Écoutez, c'est Michelle Yeoh, donc l'actrice chinoise que l'on connaît, qui est à l'origine du film. C'est elle qui a reçu
chinoise
le
anglophone, ce qui
oui,
aide.
Bien sûr. Donc, qui a reçu le script, le scénario. Elle a été évidemment tout de suite bouleversée par le parcours de cette combattante que l'on connaît et dont vous venez de retracer le parcours. Et puis également bouleversée par l'histoire d'amour, parce que le film est quand même très romanesque aussi et raconte comment cette femme a été déchirée entre sa famille, l'amour pour son mari et ses deux fils et l'amour pour son peuple et le destin donc qui lui commandait de diriger, d'être le leader de l'opposition.
Elle a joué un rôle essentiel, Michelle Yeoh, dans cette histoire. C'est elle qui a voulu incarner
absolument,
le personnage.
Absolument, c'est elle qui a convaincu donc Luc Besson, qui n'a pas eu du mal à être convaincu
de faire
le film tout de suite. Virginie et Luc Besson étaient tout de suite, on dit, il a tout arrêté, tous ses projets, il a dit je veux faire ce film. Et il a évidemment tout de suite donné le rôle à Michelle Yeoh, c'était une évidence. Et Michelle Yeoh est saisissante de vérité, de ressemblance. Elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. On le voit dans le film. Elle a la même taille.
Vous l'avez rencontrée, vous?
Alors, moi, je l'ai rencontrée. Elle a la même taille. Elle est aussi menue et fine qu'elle. Elle a dû perdre 5 kilos pour le tournage, pour le rôle. Elle a vécu pendant 8 mois avec cette femme, d'une certaine façon, parce qu'elle n'a pas pu la rencontrer au début. Impossible de la rencontrer, évidemment. Elle était encore assignée à résidence. Évidemment, le tournage était top secret, puisque pour des raisons évidemment évidentes.
Oui,
voilà, et, ils ont tourné en Thaïlande, quelques images volées en Birmanie même, à Rangoon. Et donc, elle a appris le birman, alors qu'elle ne le connaissait pas du tout. Même si l'asiatique, c'est très difficile, m'a-t-elle dit. Ça a été extrêmement éprouvant. Elle l'a appris à la perfection pour justement prononcer ce fameux discours,
discours. C'est très beau.
Magnifique.
D'une puissance contenue tout à fait remarquable.
Oui.
C'est une très belle scène du film.
Très belle
scène,
très forte.
Il y en a beaucoup
de
scènes qui marquent, en fait.
Ça
fait penser un peu, si l'on peut dire, c'est dans la même lignée, me semble-t-il, que le film que Richard Attenborough avait autrefois consacré à Gandhi. Vous savez, dans les années 80, il y avait cette même force. On a l'impression que la démocratie est comme une vague que rien ne pourra arrêter, et néanmoins contenue. C'est assez fort. Vous connaissez la Birmanie vous-même,
Diane Chalouda? Un petit peu, oui. Enfin, j'y suis allée comme ça pour un voyage d'agrément.
Est-ce que la pression politique...
On sent la chape de plomb.
Oui,
absolument. Ouais. C'est un pays magnifique. Les paysages sont sublimes. Les gens sont d'une délicatesse, d'une gentillesse inouïe. Mais on sent cette chape de plomb, ce poids de la junte. Impossible de parler du pays, de poser des questions. On sent que on avait des guides, mais c'était on pouvait pas leur poser des questions trop dérangeantes parce qu'on ne savait pas du tout ce qu'ils pouvaient craindre. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est qu'elle s'est immergée vraiment dans le personnage,
Yeoh,
Michelle Yeoh. Elle a pu rencontrer Aung San Suu Kyi quand même à la fin, en cours de tournage, lorsqu'elle a été libérée. Et elle m'a dit, mais vraiment la force intérieure de cette femme est sidérante. Et la gentillesse, la bonté qui émane de cette femme, la force de caractère... Mmh. Qui est vraiment tout à fait remarquable et qui est une vraie leçon de vie.
Christiane nous dit par internet que lorsqu'en 2007 elle s'est rendue en Birmanie, les cars de tourisme évitaient soigneusement le quartier où résidait, où était assignée à résidence, devrait-on dire plutôt, Aung San Suu Kyi, évidemment.
Et c'est pour ça le titre du film The Lady, parce que là-bas on n'osait pas prononcer son nom, personne n'avait le droit, donc on disait la dame, The Lady.
La dame. Et oui, ça suffisait, on savait très bien de qui on parlait, bien entendu.
Moi, je voulais rajouter que même en tant que, sur l'aspect médiatique de la détention d'abord d'Aung San Suu Kyi, et ensuite même quand elle a été libérée, une de nos reporters, Flore Olive, s'est rendue avec un visa de touriste en Birmanie, elle s'est faite passer pour une enseignante, c'est-à-dire il fallait surtout pas dire qu'on était journaliste, et elle a pu la rencontrer chez elle, mais ça a été assez exceptionnel, c'était quelques semaines après le 10 novembre 2019. 2010, après qu'elle ait été officiellement qu'on ait mis un terme à sa résidence surveillée. Donc c'était très difficile pour les journalistes d'aller la rencontrer, c'était très difficile d'avoir le moindre contact avec elle.
Pas, elle était isolée, évidemment. Voilà. Merci Régis Le Sommier de Paris Match, merci donc à Diane Chenouda, et puis Pierre Martial, je rappelle l'adresse de votre site internet, www.aungsansuukyi.fr. On peut donc se renseigner sur son actualité et sur l'évolution de la situation en Birmanie grâce à ce site notamment. Et puis je signale que tout à l'heure, c'est Nicolas Poincaré qui recevra Luc Besson donc dans son journal à 18h pour parler du film, bien entendu.
Dans Repas Soir, et puis il y a aussi une page spéciale sur notre site internet avec en vidéo la bande-annonce du film, des extraits également du film et puis la possibilité de réécouter votre émission Franck et l'interview de Luc Besson ce soir. Page spéciale The Lady sur Europe1.fr.
Et j'ai quelques livres, alors on peut renvoyer à internet, mais Thierry Falise a écrit un très beau Aung San Suu Kyi, Le Jasmin ou la Lune, dont s'est du reste inspiré Luc Besson. Et puis pour les plus studieux de nos auditeurs, cette histoire de la Birmanie contemporaine, Le Pays des Prétoriens, comme c'est bien dit, de Renaud Aigretot, c'est publié chez Fayard. C'est un ouvrage d'histoire thématique sur la période contemporaine, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il cale bien les choses. Voilà, c'était une émission un peu atypique par rapport à ce que nous faisons d'habitude, mais j'étais ravi de pouvoir la faire.